Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Quasiment 18h40, on va défaire le monde maintenant dans RTL Soir. La bande est réunie, Cyprien Signy, Céline Landreau, Laurent Tessier. L'info autrement, avec un autre regard jusqu'à 19h. Menu s'il vous plaît Cyprien.
Ce soir, on défait le salaire des très grands patrons. Alors que les 19 millions de Carlos Tavares, le boss de Stellantis, l'ex-PSA, font polémique, on vous fait pénétrer dans le club ultra fermé des méga rémunérations. Comment gagner autant? Qu'est-ce qui décide du prix? Et pourquoi? Vous allez tout comprendre. Au menu également, une procuration pour sauver la planète et objectif Everest, mais à 70 ans. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
On va faire simple, en 2021, Carlos Tavares a gagné 10 000 mois de salaire d'un agent de production. C'est comme si cet ouvrier avait commencé à travailler en 1189 sous Richard Cœur de Lion.
Oui. Analyse historique, hein, signée Martial You, le chef du service éco de RTL. 19 millions de rémunération en 2021 pour Carlos Tavares, le patron de Stellantis, l'ex-PSA Peugeot Citroën. Alors, les actionnaires n'approuvent pas, hein, mais au-delà du simple cas Tavares, on a voulu élargir le sujet en s'intéressant de plus près à ces méga rémunérations qui ne sont donc pas réservées qu'aux stars du foot.
Est-ce qu'il existe un marché des grands patrons, comme il existe le mercato estival, qui décide de leur verser de tels salaires et comment les justifie-t-on?
Pour tout savoir, on a appelé François-Xavier Dudouet. Il est directeur de recherche au CNRS, auteur notamment de l'ouvrage « Les grands patrons en France, du capitalisme d'État à la financiarisation ». C'est aux éditions Ligne de repère. Et d'abord, première chose à savoir sur ce milieu très fermé, ça ne se passe pas vraiment comme sur le marché du travail que nous connaissons, vous et moi.
Il n'y a pas de marché des grands patrons, les Bompard, les Proglio, les Tavares. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est plutôt exceptionnel. Ce n'est que le haut de l'iceberg, puisque la plupart des grands patrons sont issus de l'entreprise qu'ils dirigent. Pour arriver à la tête d'une entreprise, il faut faire entre guillemets carrière.
Mais c'est quoi faire carrière? Comment on devient grand patron?
Ah, ça vous intéresse, ça, Julien?
Ah bah, un peu, mon
Dieu. Je pense que ça intéresse nos auditeurs. Alors écoutez bien, prenez des notes, parce que rien n'est dû au hasard.
C'est d'abord un diplôme assez élevé. Alors, ça a longtemps été en France, l'ENA, Polytechnique et HEC. Maintenant, il vaut mieux avoir fait une business school aux États-Unis. Ensuite, il faut avoir travaillé plutôt dans les secteurs opérationnels, c'est-à-dire la vente, la production, mais non pas dans les fonctions de support, qui sont les RH, la communication, le marketing. Et puis, il faut avoir été obéissant. C'est un peu comme à l'armée. Plus vous êtes un bon soldat, plus vous avez de chances d'arriver en haut. Et à la fin, il faut aussi de la chance. C'est-à-dire qu'il faut que ceux qui sont au-dessus de vous décident de vous nommer, de vous promouvoir. Et ça, c'est une compétition qui est féroce dans les entreprises. C'est pas le hasard qui vous fait arriver là-haut, c'est d'abord un combat qu'on peut appeler un combat corporatique, c'est-à-dire qui est propre à la bureaucratie des grandes entreprises et qui fait qu'à un moment, vous êtes en position de pouvoir prétendre au poste suprême. Et là, effectivement, il y a une dernière lutte qui vous permet de devenir directeur général.
Bon, je crois que pour vous et moi, Cyprien,
ouais, c'est râpé.
C'est râpé. Hein. Concernant ces méga rémunérations, comment ça se décide s'il n'y a pas de marché, qui fixe le prix?
Eh bien, il y a une sorte d'alignement sur la grande entreprise voisine, vous allez comprendre.
Leur rémunération, elle est fixée en fait par l'entreprise elle-même. C'est le conseil d'administration qui décide. C'est pas le fruit d'une négociation ouverte avec des prix qui seraient attachés à tel ou tel dirigeant, pas du tout. Puisque ces rémunérations sont publiques, donc elles regardent ce que font les unes et les autres et ensuite elles déterminent un prix. Il y a une partie fixe, mais il y a aussi une grosse partie variable en fonction bien sûr des résultats, mais essentiellement d'après les revenus des autres entreprises. Alors très longtemps, les dirigeants français s'alignaient les uns par rapport aux autres. Mais maintenant, ils regardent de plus en plus à l'étranger, qui tentent de s'aligner sur les rémunérations, par exemple, qu'on peut voir aux États-Unis, qui, elles, se chiffrent en dizaines de millions de dollars.
Donc, les rémunérations, il y a un alignement, c'est ce que j'ai compris, mais les qualités...
Bien.
Je comprends bien, j'écoute. Hein.
Mais c'est très clair.
Mais dites donc, les qualités personnelles de l'un ou de l'autre, elles n'entrent pas du tout en compte?
Pas forcément, en fait. D'autant... Vous allez comprendre qu'elles sont difficiles à évaluer.
Ils ne sont pas rémunérés pour leur qualité. C'est quasiment impossible d'évaluer la performance d'un patron. Quand vous voyez Messi marquer un but, dribbler 2-3 joueurs, bon, on voit sa performance. Mais un grand patron, qu'est-ce qui revient à ses mérites propres dans la performance d'une entreprise qui comprend des centaines de milliers d'employés? C'est ça la difficulté.
Et c'est aussi pour ça que c'est un sujet qui revient en permanence dans l'actualité depuis près de 20 ans.
Le monde parallèle des grands patrons qui fascine toujours autant.
RTL. Sous les radars.
Allez, on défait comme chaque soir, l'info effectivement passée sous les radars.
Le Titanic a coulé il y a 110 ans jour pour jour. C'était après avoir heurté un iceberg, hein, vous avez tous vu le film évidemment. Eh bien, on sait désormais, grâce à Météo France, oui Météo France, pourquoi le capitaine du paquebot s'est pris l'iceberg.
Alors c'est vrai qu'on a entendu plusieurs explications à une trop grande vitesse du Titanic malgré la présence d'iceberg, un manque de vigilance à la passerelle du navire, mais un nouveau facteur entre en jeu, la météo. Oui, parce que Météo France a clairement observé que les températures de l'hiver 1912 étaient anormalement douces, il n'y avait pas de brume, pas de vent, et la banquise a commencé à fondre plus tôt que prévu, ce qui fait que les icebergs se sont trouvés sur la route empruntée par Titanic. Et d'ailleurs, cette fameuse nuit du 14 au 15 avril 1912, les secours avaient compté plus d'une vingtaine d'icebergs de plus de 60 mètres de haut, imaginez.
D'accord, mais alors comment ils ont pu ne pas voir l'iceberg de plusieurs dizaines de mètres de haut quand même?
Alors,
ça s'explique ça aussi?
L'équipage a pu être victime d'un effet d'optique lié aux températures, justement, ce que l'on appelle un mirage de brume. On va faire simple. L'eau très froide rencontre un air plus chaud juste au-dessus de la surface et ce choc de température peut créer une bande de flou qui empêche une bonne vision de l'horizon. Un mirage qui rend invisible l'iceberg. On ne voit plus rien, la vision humaine est troublée, surtout si vous êtes sur la passerelle à 23 mètres de hauteur.
Et surtout après une bouteille de whisky.
Bon, en fait, le Titanic, c'est comme le mauvais temps. C'est à cause de Peggy encore.
Bien sûr,
c'est
oui,
toujours de sa faute.
1912, hein, je vous rappelle.
Vous ne faites pas votre âge. Une petite pause, on continue de défaire le monde dans RTL Soir avec une première info pour briller au dîner. On va briller avec Top Gun, juste après ça.
Super.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h48, à l'heure où vous entrez en cuisine, on défait toujours le monde dans RTL Soir et on vous prépare, on vous mitonne une première info pour briller au dîner.
Le Festival de Cannes a dévoilé sa sélection aujourd'hui. Bon alors, comme d'hab, il y aura les frères Dardenne, un film hongkongais qu'on verra pas. Mais, mais c'est vrai. Mais il y aura surtout.
T'es pas à Ken Loach?
Sûrement, là, j'ai pas regardé ça. Mais il y a vraiment les frères Dardenne, hein, c'est pas une blague. Mais il y aura surtout l'avant-première du nouveau Top Gun, Laurent.
Ah, et alors peut-être qu'avant de voir le nouveau, vous allez vous refaire l'ancien avec cette scène d'amour, vous savez, entre Tom Cruise et Kelly McGillis. Ah, la Peggy,
ah, bah, c'est pas les frères Dardenne.
Elle a les yeux qui brillent.
Là, ouais, là.
Ça me rappelle des souvenirs. Hein.
Ah oui.
Bon. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette scène, eh bien, elle a été tournée après les premières projections test plusieurs mois après le tournage.
Ah bon?
En fait, les spectateurs trouvaient l'histoire d'amour un peu faiblard.
Donc, le film était fini, quoi.
Ouais, exactement. Donc, allez hop, ce qu'on a fait 5 mois après, c'est qu'on a rappelé tout le monde. Sauf qu'entre temps, Kelly McGillis s'est éteint les cheveux, ce Tom Cruise avait poussé. Donc, la scène a été immergée dans une lumière bleutée. Et regardez bien Top Gun, on remarque que les cheveux de Tom Cruise sont un peu plus long. Et en plus, c'était pas le premier trucage. Tom Cruise avait dû porter des talonnettes pour se mettre à la hauteur de sa partenaire, qui mesure
1m78.
Ah, 1m70.
Info pour briller au dîner. Vous avez placé la barre très haut sur cette info pour briller.
Pression, Céline.
Céline a la pression.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy.
En attendant de nous délivrer son info pour briller, Céline va nous dire si elle a choisi un winner ou un loser ce soir. Alors, d'habitude, c'est un loser. De temps en temps, c'est un winner. Ce soir, ce sont des winners. Elle innove.
Des gagnants, effectivement. On reste dans l'histoire d'avion. Hein, c'est Maverick, un peu. Qui ont peut-être aidé Jean Castex à gérer son bilan carbone et à faire des économies à l'État.
Oui, parce que rappelez-vous, dimanche...
Jean Castex, le Premier ministre qui arrive dans son bureau de vote de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, où il va donc accomplir...
C'était le premier tour de la présidentielle. Et pour aller voter, Jean Castex a fait le trajet vers le sud-ouest en avion. Un aller-retour Paris-Perpignan avec un Falcon de la République. Pas très écolo-compatible, d'après des militants qui ont calculé que ce seul voyage pour 2 heures sur place avait rejeté près de 4,5 tonnes de CO2, soit autant qu'un Français moyen pour 6 mois. Et là, vous pensez peut-être à ce chiffre régulièrement brandi par le patron de la SNCF.
Un TGV, ça pollue 80 fois moins que le même voyage en avion. 80 fois moins.
D'autant que c'est bizarre parce que notre Premier ministre, il adore le train, rappelez-vous.
Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Je vous souhaite la bienvenue à bord du train Intercité de nuit numéro 5773 à destination de Nice Ville.
Et même quand il ne joue pas les chefs de bord, il en parle beaucoup, beaucoup.
Les investissements ferroviaires depuis 2017 ont été multipliés par 4 de la route vers l'Orail. Le fameux nœud ferroviaire, le train couchette, le train des primeurs, la voie ferrée. On a des ambitions ferroviaires communes.
Il adore le train, donc, le Premier ministre. Mais alors, pourquoi avoir pris l'avion? Eh bien, il a répondu sur RTL.
Le Premier ministre, il faut qu'il soit à Paris très vite s'il y a le moindre problème.
Oui. Là, c'est vrai que le train pour Prades, c'est long. Hein. On a regardé, au mieux, il faut compter 5 heures de trajet contre moins d'une heure en Falcon. Mais alors, comment faire pour le second tour? L'avion qui pollue, le train pas assez rapide.
Aïe, aïe, aïe.
Ah, on me souffle dans l'oreillette.
Voter par procuration, aujourd'hui c'est facile.
Ah bah ouais, pas mal la procuration. C'est justement l'idée du collectif qui a lancé cette pétition. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'y ait pas pensé tout seul, Jean Castex, parce qu'il avait l'air de maîtriser le sujet parfaitement en février à l'Assemblée.
Nous avons également facilité le vote en numérisant les procédures de procuration. Là aussi, il y a une autre plateforme en ligne, maprocuration.gouv.fr. Vous pouvez, je m'adresse à tous mes concitoyens maintenant, en quelques clics, donner procuration à un proche partout sur le territoire grâce à ce qu'on a appelé la déterritorialisation des procurations.
Formidable la procuration.
Quelques clics.
Et celui qui se revendique gaulliste social pourra donc marcher dans les pas du général qui avait lui aussi voté par procuration pour une présidentielle. C'était en 69.
Je crois que le vote de Jean Castex dans 10 jours sera particulièrement scruté. Merci beaucoup Céline. Petite pause dans un instant, nouvelle info pour briller au dîner. On continue de défaire le monde de RTL Soir et on va vous parler des œufs de Pâques. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, 18h55, minutes, on défait toujours le monde pendant encore 5 minutes dans RTL Soir. Et voici une nouvelle info pour briller au dîner.
Et ce week-end, vous allez peut-être observer les plus jeunes fouiller les buissons, les bosquets, trop mignons, bref, se lancer dans une chasse aux œufs effrénée. Bah ouais, c'est pas dimanche. Mais d'ailleurs, Céline, pourquoi l'œuf de Pâques ?
Bah alors, la coutume d'offrir des œufs parfois décorés, elle existait bien avant l'ère chrétienne. L'œuf représente le printemps, l'éclosion de la nature, tout ça. Donc c'était utilisé dans de nombreux rites. Mais c'est probablement l'interdiction faite par l'Église au Moyen-Âge de manger des œufs pendant le carême qui a institué la tradition des œufs de Pâques. Bah oui, parce que vous aviez plus le droit de les manger, mais les poules continuaient à pondre.
Ah bah ouais.
Et donc, 40 jours après, 40 jours sans manger les œufs, vous aviez un stock d'œufs qui fallait bien
écrémer. Mais ils sont encore bons, les œufs, après 40 jours ?
Vous les décoriez, vous les... c'était pas des œufs au chocolat.
C'est pour faire joli.
Vous voulez faire une omelette ?
Okay. Faire une omelette avec les œufs.
Je pensais qu'en disant l'œuf de la poule, vous comprendriez que c'était pas des œufs en chocolat. Mais
qu'est-ce qu'il est fatigant. C'était une bonne info pour briller au dîner, mais je dois avouer que j'ai un petit faible pour l'info Top Gun. Donc victoire de la Russie ce soir.
Je sens que vous avez dragué là-dessus. Hein.
Marche ou rêve.
Allez, tous les soirs, vos projets les plus fous dans le poste de radio. Mais dites donc, c'est jeudi.
Et comme tous les jeudis...
Il va y avoir du sport.
C'est jeudi sport. Et oui, vos projets les plus fous en rapport avec le sport. Et ce soir, vous adorez la rando, vous adorez la marche en montagne. Nous aussi, mais là, le défi est peut-être un peu trop élevé pour nous, Laurent.
Ah oui, vu notre niveau sportif, on ne le tenterait pas. Contrairement à l'alpiniste Marc Bâtard, pour fêter ses 70 ans, il veut devenir l'homme le plus âgé à gravir l'Everest sans bouteille d'oxygène. Bonsoir Marc.
Bonsoir.
On le rappelle, 8848 mètres d'altitude, le plus haut sommet du monde. Qu'est-ce qui vous incite à vous lancer maintenant dans ce défi ?
D'une part parce que j'ai rencontré mon mari brésilien il y a 8 ans et il y a 5 ans j'étais confortablement installé au bord de la mer à Salvador de Bahia et où j'ai eu l'idée de lui dire pour mes 70 ans je t'invite à aller faire l'Everest. Et du coup maintenant je suis à quelques jours du projet final mais lui vient uniquement en tant que caméraman. Ce qui est très important, c'est que je tiens absolument à refaire l'Everest, mais sans utiliser de bouteille d'oxygène.
Oui, vous le disiez, vous avez déjà monté l'Everest en moins de 24 heures. C'était en 88, il s'est passé 30 ans depuis. Là, c'est quoi l'objectif ? Il n'y a pas d'objectif de temps, c'est simplement arriver au sommet ?
Voilà, au lieu de le faire en moins de 24 heures, je vais le faire d'une façon classique en 3 jours, peut-être 4, suivant les conditions. Donc je vais surtout respecter une acclimatation parfaite. Il y avait un certain problème, c'est que depuis pas mal d'années, j'ai décidé de ne jamais repasser la cascade de glace de la voie normale de l'Everest côté népalais, qui est extrêmement dangereuse. Et ce qui fait que l'année dernière, j'ai eu la bonne idée, grâce à mes sponsors, de prendre un hélicoptère et d'aller faire un repérage pour savoir si ce passage très dangereux sur l'Everest n'était pas faisable de changer. Et du coup, j'ai trouvé un passage et grâce toujours à mon sponsor principal, j'ai pu aller faire des reconnaissances et équiper un passage que nous allons emprunter maintenant avec mon fils Passang Sherpa et son fils.
Marc, pour que tout le monde s'imagine bien, là, typiquement grimper l'Everest, là, ça veut dire qu'est-ce qui vous attend sur place ? C'est quoi les principales difficultés ?
Ça paraîtra un peu bizarre, mais la difficulté, c'est surtout la motivation de souffrir quelque part pour aller jusqu'au sommet. Donc là, tout simplement, il faut respecter la montagne, parce que contrairement à ce qu'on dit en général, la montagne n'est pas dangereuse. Tout simplement, les gens ne la respectent pas suffisamment. Mais si on respecte la montagne, eh bien, et qu'on la connaît surtout, ça va bien. Donc c'est là, la principale chose que l'on doit faire, c'est respecter la phase d'acclimatation qui va durer à peu près un mois. Et une fois qu'on sera très très bien acclimaté, eh ben, on pourra faire l'ascension finale à partir du 8 ou 10 mai.
Eh bien, rendez-vous au mois de mai pour battre ce record. On l'espère et devenir la personne la plus âgée à gravir l'Everest sans apport d'oxygène. Bonne soirée, Marc.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, Marc. Et bon courage. Et merci
chance,
à vous, les amis d'On défait le monde. Demain, 18h40, on refera comme tous les vendredis nos
régions.
Merci à vous. Bonne soirée.